Vous aussi, vous voulez diffuser une annonce sur votre radio?
Contactez-nous sur
www.station-millenium.com.
Rubrique Contact.
Le week-end, Matt et les filles jouent le jeu Fou Rire. Défi et découverte, c'est ludique.
Amis joueurs, amis joueuses, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est ludique, l'émission qui fait rimer plaisir, partage et jeux de société. Oui, parce que pendant une heure, eh bien, je vais vous embarquer dans l'univers ludique sous toutes ses formes. Des nouveautés, des jeux pour les enfants, sans oublier des jeux plus anciens qui méritent toujours une place à votre table. Alors à mes côtés, vous le savez, mes chroniqueuses Anne-Gaëlle et Morgane pour débattre, tester et vous conseiller. Et parce que le jeu, ce sont aussi celles et ceux qui les créent, eh bien, j'accueillerai aujourd'hui un invité du monde ludique qui viendra partager son univers et sa passion. Alors installez-vous confortablement, sortez les dés, mélangez les cartes. Moi, c'est Matt et vous écoutez, c'est ludique.
Le week-end, Matt et les filles jouent le jeu Fou Rire. Défi et découverte, c'est ludique.
Et comme tous les samedis pour commencer cette émission, on retrouve Anne-Gaëlle. Salut Anne-Gaëlle.
Salut, bonjour tout le monde.
Et bien sûr, on commence avec les enfants.
Oui, avec un jeu pour les plus petits aujourd'hui qui s'appelle Petite Souris, la grande aventure.
Ouh là là,
ça fait rêver les petits.
Ah bah là,
tout de
suite.
De voyage, de grande aventure.
Ah bah, en plus, c'est une petite souris, donc la petite souris qui fait la grande aventure. C'est
exactement. Top. Et pour le coup, niveau illustration, on est vraiment sur un design, tu sais, presque des vieux albums qu'on avait quand...
Ah ouais.
Ouais, enfin, j'allais dire qu'on avait, mais non, que j'avais quand j'étais petite, pas old school de plusieurs années, mais quand même, tu vois, il y a quand même bien 15
ans. Que
t'avais,
ans, et pourquoi ? Parce que t'as l'air de dire qu'il y a une différence d'âge entre toi et moi, c'est ça ?
Légère, tu vois, le style graphique a quand même évolué entre ton enfance et la mienne.
Oui, voilà, exactement, on va dire ça. Allez, continue de me présenter avant que je m'énerve, hein.
On est sur un jeu d'à peu près 10 minutes, vraiment rapide, hein, puisqu'on est pour des jeux pour des enfants à partir de 3 ans.
Mmh. Ah,
et
oui,
1 à 4 joueurs. Pour okay. Le coup, ils peuvent même jouer tout seul. Mon fils a joué tout seul. Il a 3 ans et demi passé.
Ouais.
Et donc, c'est un jeu de MNKY Entertainment. Ça doit être un petit studio.
Ouais, je pense. Ouais.
Et illustré par Mickey Butterley. Et c'est en fait arrivé en... C'est le cas en France par Tribio.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc, en fait, dans ce jeu, on incarne des petites souris. Et il faut rentrer avant la nuit.
Ah.
Ouais. Et alors, on va jouer dans la boîte. Du coup, on va installer un petit plateau qui va se mettre sur la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un trou au milieu qui va former en fait le terrier.
D'accord.
Tout autour de la boîte, on va installer des petits jetons qui vont représenter les petits animaux qui sont sur le plateau. Ces petits jetons, ils vont être face cachés. Mmh. L'objectif, ça va être de les retourner pour pouvoir avancer sur le plateau.
D'accord.
Donc, on met tous les petits jetons en face cachée. Mais il y a aussi la nuit qui peut progresser. Enfin, le coucher de soleil, en réalité. Il va falloir essayer d'être le premier à rentrer dans le trou
avant la nuit.
Avant qu'il fasse nuit.
Ah bah oui.
Donc, soit il fait nuit, tout le monde a perdu.
D'accord.
Soit il y en a un qui arrive au terrier. Dans ce cas-là, il a gagné.
OK.
OK. Et alors, très simple, hein, j'ai les jetons. Je retourne un. Je regarde ce qu'il y a. S'il y a une coccinelle, je déplace ma souris jusqu'à la prochaine coccinelle visible.
Jusque-là, c'est pas très compliqué.
Voilà, pas très compliqué. On est sur du 3 ans, donc il faut quand même avoir un jeu assez simple. Mmh. On peut, sur les jetons, retourner des lunes. Dans ce cas-là, on fait progresser en fait, le coucher de soleil jusqu'à la nuit.
D'accord.
Et la lune, en fait, reste en place. Les autres jetons, on les met dans le terrier.
Ok.
Ça fait un système, en plus de rangement, on range le jeu au fur et à mesure.
Ah, c'est bien, c'est pratique.
On met les petits jetons à l'intérieur, en fait, par le trou. Et les jetons lune, par contre, restent à leur place. Donc, dans ce cas-là, il faudra souvenir où sont les jetons lune pour éviter de les faire progresser et que le jeu se termine plus vite que prévu. Alors, ça fait parfois rire les enfants, hein, les tout-petits, ils vont essayer même parfois de retourner plusieurs fois la lune en faisant « Ah mince, c'était la lune !» alors qu'ils le savent bien.
Ouais,
c'est
bah
trop
oui.
marrant pour eux de faire avancer le jeu. Après, ils se rendent compte qu'ils ont perdu et là, c'est un peu moins marrant, donc ils recommencent pas. Et alors, petit twist, c'est qu'en fait, sur le plateau, on va pouvoir rencontrer des animaux de la forêt.
Ah.
Il y a une taupe, il y a un escargot, il y a un petit hérisson. Et en fait, quand on dépasse l'endroit où ils sont, on a le droit de regarder deux jetons.
D'accord.
On regarde les deux. Voilà, on les remet face cachée. Et en gros, l'idée, c'est de se dire on les sort au bon moment. Parce qu'il y a une alternance hein, entre coccinelle, abeille, papillon. Et en fait, quand un joueur est déjà sur la coccinelle, forcément, si je reprends coccinelle, je vais à la coccinelle qui est plus loin.
Ouais.
Donc en fait, sur ce système de memory, je vais pouvoir me dire, ah bah tiens, je me souviens que c'est une coccinelle, dès que quelqu'un est devant moi et se met sur la prochaine coccinelle, je retourne ce jeton pour avancer un peu plus loin.
D'accord, ok.
Donc voilà, c'est très léger et à la fois tout mignon parce que les enfants, ils aiment bien les petites souris, ils aiment bien les animaux de la forêt. Et ça marche bien. Voilà, c'est un petit jeu, je dirais plutôt classique, dans le sens où on a déjà vu ce système de jeu. Il n'y a pas de mécanique révolutionnaire, mais à la fois, ça fait le boulot avec les tout-petits. Ça marche très bien, c'est rapide. C'est vraiment pas cher, pour le coup.
Ouais.
Donc, ça permet d'avoir un petit jeu sympa.
Et donc, c'est chez Tribio.
Ouais, c'est distribué par Tribio. Et donc, en fait, il y a une petite variante coopérative. Étant donné qu'il y a la nuit, on peut aussi mettre les souris et se dire on rentre toutes les souris dans le terrier
avant
la nuit.
Ouais,
donc vraiment, on peut jouer chacun pour soi ou en coopératif.
Très bien. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. On se retrouve dans un instant pour faire le débrief de cette semaine.
Avec grand plaisir.
C'est Ludique, le rendez-vous des joueurs et joueuses du week-end.
Et on continue ce C'est Ludique avec les jeux que j'ai présentés cette semaine. Anne-Gaëlle est toujours restée avec moi.
Oui.
Et on va faire donc le débrief. Tu vas me dire ce que tu en as pensé, si tu y as joué ou pas déjà.
Ouais.
Allez, on commence avec un jeu qui sent bon Paris, La Bohème.
Oui, joué une fois du coup. Je dirais que j'ai trouvé ça sympa.
Ouais.
C'est magnifique.
Ouais, niveau illustration, c'est top.
Dès qu'on le voit, c'est incroyablement joli. J'ai aimé y jouer une fois, mais je suis pas sûre que c'est un jeu auquel je rejouerai plein de fois.
D'accord. Okay.
Mais je l'ai trouvé agréable. Je pense qu'il est chouette pour les gens qui découvrent un peu ce type de mécanique. Mmh. Mais à la fois, j'ai pas envie d'y revenir encore et encore.
D'accord.
Mais c'est sympa.
Ok. Voilà. Allez, on continue avec un tout petit jeu qui s'appelle Blops.
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 Juste à dire, c'est rigolo.
Blops.
Moi, la boîte, elle me faisait peur au début. franchement, ce petit bonhomme, enfin, je trouve que. Mais
c'est,
après,
un poisson,
à la
Angèle, hein. C'est un poisson.
Comment ?
C'est un poisson, moi. Hein.
Ouais, mais il me fait un peu peur.
Ah, d'accord.
Mais, quand tu vois la boîte, sur le coup, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est que ça?
C'est vrai.
Et à la fin, j'ai passé un bon moment à jouer avec.
Mais ouais, c'est rigolo.
J'ai trouvé ça rigolo. Mmh. Et je trouve que la boîte peut donner pas envie d'y jouer, alors que c'est plutôt sympa. Tu vois, c'est dans la famille un peu, tu sais, Sky Joe.
Bah voilà, ouais, c'est ça, ouais.
Ça marche bien, c'est un petit jeu de cartes qui marche avec tout.
Faut avoir de la bonne mémoire, par contre, hein.
Oui. Mais c'est ce qui est fun, tu vois. Enfin, nous, on a rigolé.
Ouais.
Voilà,
ouais,
où
ouais.
Sky Joe, on va rester parfois genre, ouais, ok, tu vois.
Oui.
Là, c'était fun.
Ouais.
On a bien rigolé.
On enchaîne avec Railroad Tiles. On connaissait déjà la série version Roll and Write.
Ouais.
Et là, donc, on a une version avec des tuiles.
Ouais, moi, j'adore.
Mmh. Moi aussi.
J'aime trop. Alors, c'est rigolo parce que c'est... En fait, j'ai vraiment de l'amour pour Railroad Inc. pour le coup.
Ouais.
C'est un jeu que je joue, mais alors tout le temps l'été, depuis qu'il est sorti. Hein.
D'accord,
sa sortie. Et c'est le genre de jeu où je me mets sur mon Transat, toute seule en plus.
Ouais.
Et je joue à Railroad Inc. J'adore construire mes trains, etc. Donc quand je l'ai vu en tuiles, je me suis dit, ah cool! Tu vois, parce que les gens n'aiment pas toujours, tu vois, dessiner des rails, des routes, etc. C'est un peu parfois fastidieux pour certains.
Oui, c'est pas si évident de ça des fois.
Ouais, c'est ça. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Mmh. Je trouve que c'est une bonne version, cette version de tuiles. Et puis moi, j'aime bien les tuiles, j'aime bien jancer, faire ma popote.
Alors, c'est
parfait. Non, c'est bien.
On continue avec un jeu d'ambiance cette fois-ci, Bruitage.
Et tu vois, il faut qu'on y joue.
D'accord, tu n'as pas encore joué.
Non, je l'ai, mais il faut qu'on y joue. Là, on a joué à d'autres jeux, j'avoue. On n'a pas eu encore cette soirée apéro copain.
Oui, voilà, c'est ça.
Je l'ai plutôt gardé pour une soirée apéro copain. On en a fait plutôt des journées jeux, vraiment.
Oui.
Donc c'est vrai que je ne l'ai pas glissé entre deux, mais je pense que ça peut être très drôle.
Oui, c'est rigolo. C'est-à-dire qu'en plus, il faut que tu aies les mains derrière le dos, donc tu fais du bruit, mais tu peux faire des mimes, mais c'est compliqué de faire des mimes avec tes mains derrière le dos, quoi.
Ouais.
Donc c'est pas si évident ça sur
mais je pense que c'est un peu clivant. Tu sais, c'est le genre de jeu où certaines personnes vont pas du tout.
Ah oui. Ouais.
Vont être même limite gênés, tu vois.
Oui, de faire. Ah bah oui. Ouais.
Je me souviens d'un jeu comme ça où tu avais des soundtracks, je crois que c'était ça.
Soundtrack.
Chez Yellow.
Ah oui.
Il fallait classer des bruits, etc.
Oui, reconnaître
des bruits.
Ouais.
Et je sais que certaines personnes, franchement, elles te faisaient le bruit d'un réveil. Tu avais l'impression que c'était un train, tu vois.
D'accord. Ouais,
donc j'ai hâte de voir. Il est sur la liste des jeux qu'on doit tester.
Et on finit avec un jeu un petit peu plus ancien, mais qui revient là, c'est Kabuto Sumo.
Ouais, et j'y ai joué, et beaucoup avec Luna.
Ouais, un jeu de pouce-pouce.
Ouais, et sur le coup, sur la boîte, je m'attendais pas à ça.
Non,
tu sais,
quand tu vois la boîte,
avant de retourner, je me souviens recevoir la boîte, et la retourner, et me dire, mais attends, c'est quoi? Ah oui, c'est un jeu où on pousse. Mmh. Et oui, après, ça se tient, hein, avec l'histoire des sumo, etc. Mais j'ai un bon souvenir. On n'y a pas beaucoup rejoué, mais ça me donne presque envie, là, tu vois, d'en parler, d'en rejouer, parce que je l'ai gardé. On avait eu des bonnes sensations avec Luna, et elle aimait bien, elle.
Eh ben, allez, va faire une partie tout de suite, Angèle.
Allez, bah, c'est parti. Bonne journée, alors.
Allez, bonne journée, on se retrouve la semaine prochaine.
Salut, bonne semaine à tous, jouez bien.
C'est ludique. Des hits et des jeux.
Et aujourd'hui, dans C'est ludique, on reçoit Cesare, figure bien connue du monde du jeu de société, pour parler à la fois de l'actualité de chez Atalia et d'un nouveau projet indépendant et expérimental, Protovote. Bonjour Cesare.
Bonjour.
Alors avant de parler de Protovote, un petit mot sur Atalia. Comment ça va en ce moment? Quelles sont les actualités de ce début d'année? En fin d'année, on a eu l'excellent jeu Expert Royal Society, notamment.
Voilà, ben, en fait, on va continuer à le promouvoir à Cannes bientôt.
Ouais.
Et puis, c'est aussi parce qu'en fait, Atalia change de stratégie. On se concentre uniquement sur l'édition et la localisation et on va passer la distribution
d'accord.
à MAD.
Ok, d'accord. Ok.
Donc, il y a un peu de transition là qui va se passer jusqu'à fin avril. Et puis après, tous les jeux Atalia sont exclusivement disponibles chez MAD.
D'accord, très bien. Il y a des nouveautés pour Cannes notamment.
Cannes, il y aura en avant-première Formula 5, qui est le dernier jeu de la gamme Every Game. C'est le tout petit jeu.
D'accord.
Hyper format poche, parce qu'ils font que 5x5x7. Familiaux, Every Game, parce qu'ils s'amènent partout, ils se jouent partout avec n'importe qui. Et à tout moment. En anglais, every game, every time, everywhere,
partout.
etc. <quoi. rire>
en parallèle de ton rôle chez Atalia, donc tu lances Protovote, c'est une initiative totalement indépendante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce projet?
Je me suis réveillé comme ça un jour. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, ce qui est regrettable, c'est que j'aurais dû y penser avant. Non, je me suis dit qu'au poteau, comment dire, au off de Cannes, il y a plein d'auteurs intéressants, puisqu'on va, on va faire que de l'édition à partir de maintenant. Et que c'est très difficile de tomber sur, d'aller tester les bons, quoi. Donc, on peut avoir la chance de tester sur quelque chose de bien. Et par contre, on peut perdre du temps à tester des jeux qui sont moins intéressants. Et je me suis dit, bah, il y a tellement de gens qui testent les jeux là-bas, ce serait bien aussi d'avoir l'avis des gens, carrément.
Ouais.
Plutôt que, parce que moi, je peux avoir mes goûts personnels. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que ça plaise aux gens.
Donc,
je me suis dit, et pourquoi ne pas essayer de faire voter les gens? Je vais réfléchir à un système. Déjà, est-ce que je me suis mis avec un ami à travailler sur une application pour voir si ça fonctionnait. Ça fonctionnait, ça a été assez rapide. Donc, on a lancé ça.
Justement,
un peu
César,
à la dernière minute.
Ça fonctionne comment pour un testeur qui découvre un prototype pendant le off de Cannes?
Alors, déjà, nous, effectivement, on fait une double campagne de communication à la fois vis-à-vis des gens qui testent les jeux, mais surtout vis-à-vis des auteurs.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est tout. En fait, il y a un double intérêt pour l'auteur. C'est d'avoir des notes qui sont pondérées de façon que ceux qui testent beaucoup de jeux, normalement, comment dire, sont plus crédibles vis-à-vis que ceux qui testent peu de jeux, donc leur vote pèsera autant de fois dans la moyenne pondérée que le nombre de fois qu'ils ont testé des jeux.
Mmh.
Et finalement, les auteurs pourront montrer à des éditeurs comme moi, mais les résultats seront publics, donc tous les éditeurs pourront voir ça.
Ouais, pourquoi c'est important pour toi de rendre ces données visibles par tous?
Parce que c'est pas je fais pas ça par Atalia, je fais ça pour le monde de l'édition.
Ouais, d'accord.
Et donc après, bien sûr, je vais m'en servir comme les autres pourront s'en servir. Si j'ai un jeu là-dedans qui est bien noté, qui correspond à ma ligne éditoriale, banco. Voilà. Et après, il y a que l'intérêt pour les gens qui vont tester, c'est qu'il y a 8 bons d'achat de 150 euros à dépenser chez Package, qui sont disponibles qui sont tirés au sort parmi tous ceux qui vont voter. Donc chaque votant aura un ticket de participation.
Ouais.
Ceux qui participeront, qui joueront au moins à deux jeux, dont au moins un jeu initié, ils auront deux tickets un ticket supplémentaire.
D'accord.
Et ceux qui testeront au moins deux jeux, dont au moins un jeu expert, auront un ticket supplémentaire. Donc on pourra avoir de 1 à 3 tickets de participation chaque votant.
D'accord, ok. Et du côté, donc, du point de vue des auteurs, qu'est-ce que Protovote leur apporte de différent par rapport au retour, on va dire, classique qu'on peut avoir sur un prototype ?
Ben, aujourd'hui, je le vois, hein, en tant qu'éditeur, je suis constamment contacté par des auteurs qui me disent « je fais tester le jeu, ça plaît, ça marche bien, etc. » Mais en même temps, ils ne vont pas me dire le contraire. Et donc, du coup, là, comme ça, il y aura des notes qui seront pondérées et qui pourront montrer, effectivement, que le jeu a été testé un certain nombre de fois par un certain nombre de testeurs plus ou moins crédibles, hein, parce qu'il y aura certainement des votes pour faire de sympathie vis-à-vis.
Oui, pour faire plaisir, ouais.
Mais de toute façon, c'est le système fait en sorte que ces votes-là, ils sont beaucoup moins pris en compte.
Ouais. Et alors, du coup, ça va se passer comment ? Il y aura une application
Oui. En fait, il suffit d'aller sur protovote.org.
D'accord.
www.protovote.org. Et du coup, là, les auteurs pourront s'inscrire même à la dernière minute, parce que le formulaire d'inscription est très rapide. Il suffit de changer ses règles et donner ses coordonnées personnelles. Ils recevront pour chaque jeu qu'ils vont inscrire un QR code. Et ce QR code, bah, ils vont le proposer aux gens qui testent pour qu'ils puissent voter. Donc là, pareil, il suffit de scanner avec son téléphone le QR code que l'auteur vous donnera. Et du coup, vous serez automatiquement inscrit et vous participerez au tirage au sort en fin de festival.
Alors, le projet n'est pas encore intégré officiellement au Off de Cannes cette année, mais le festival semble intéressé. Comment se déroule, du coup, cette première édition test portée uniquement par les auteurs ?
Ben, là, pour le moment, il y a déjà... Je viens justement de le lancer, donc ça fait quoi, 2 semaines, quoi.
Ouais.
Je vais en montrer la dernière. Je voulais être sûr qu'en plus l'application fonctionne. J'ai contacté effectivement les organisateurs qui semblent effectivement intéressés, mais comme ça, à la dernière minute,
ils
n'ont pas le temps d'intégrer, c'est ce qui est normal et compréhensible. Donc, je pense que néanmoins, c'est quand même une bonne opportunité. Si les gens qui participent eux-mêmes peuvent dire « ton jeu, il n'est pas inscrit, vas-y, inscris-le, tu peux le faire tout de suite, ça prend 2 clics, et je vote, et puis... » Tout le monde est gagnant.
Ouais.
Donc je pense qu'il y a moyen que ça devienne viral dans l'intérêt de tous assez rapidement en fait.
Combien il y a de prototypes inscrits à ce jour ?
Il y en avait 25 dimanche, je n'ai pas regardé depuis.
Ok. Et dans le protovote, ça va un peu expérimental. Est-ce que tu l'imagines évoluer à l'avenir et si oui, dans quelle direction ?
Bah, comme tu dis, c'est expérimental, donc c'est peut-être un peu prématuré pour en parler. Moi, je pense que ça peut être quelque chose qui va pouvoir s'appliquer à d'autres événements, pas que le Off.
Ouais. D'autres festivals.
Où il y a suffisamment de monde, en tout cas, pour qu'il y ait suffisamment de votes, que du coup, ça devient un peu représentatif. Encore une fois, parce que dans les votes, il y a certainement plein de votes, pour faire plaisir à son copain, et donc, il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup pour que, on puisse avoir des joueurs qui testent aussi beaucoup plus pour le prototype et leur vote sera certainement sera compté beaucoup plus de fois que celui de ceux qui votent une fois pour leur copain en fait.
Hein. Ouais.
Voilà, d'ailleurs, il y a un système aussi que à la fin, on compte un poids pour chaque jeu par rapport au nombre de votes que chaque votant a donné et on compte seulement 80% du poids.
Ouais,
c'est-à-dire que
ouais.
Tous les petits votes en fond, ils ne seront pas comptabilisés. Et en cas d'égalité, on prendra en compte seulement les votes les plus bas.
D'accord, ok. Ah ouais.
C'est-à-dire qu'effectivement, tous les 10, pour faire ça plaisir à son copain, ils ne seront pas comptabilisés.
Pour finir, comment tu arrives à concilier ton rôle d'éditeur chez Atalia et ce type d'initiative indépendante, pensée avant tout pour la communauté ludique ?
Ben, en fait, à vrai dire, aujourd'hui, ça ne me prend pas énormément de temps. Je pense que le gros est fait. principal, tout est automatisé, le logiciel fera les calculs, etc. Moi, je ne mets pas la main dedans. Éventuellement, je vais vérifier pendant le festival le soir qu'il n'y ait pas de dérives ou choses comme ça. De toute façon, éventuellement, je peux effectivement enlever des votes ou s'il me semble suspect. Donc, je me laisse le droit de le faire, mais je ferai seulement si c'est évident qu'il y a des dérives d'une sorte ou d'une autre. Normalement, de toute façon, il y a un facteur, on ne peut pas voter. C'est-à-dire, chaque votant doit avoir un mail différent. Donc, si quelqu'un veut voter plusieurs fois, il faut qu'il s'inscrit plusieurs fois, mettre plusieurs fois la procédure d'identification, qui est un peu gênant, donc je pense qu'il n'y aura pas de masques qui le feront. Et puis encore une fois, le système fait que de toute façon, ces types de votes-là, ils sont très peu comptabilisés, donc pas l'intérêt de le faire. De toute façon, il y aura quand même un seul ticket par participant ou quatre fois, mais selon le type de jeu qu'ils jouent.
D'accord.
Effectivement, les jeux qui sont experts ou initiés durent plus longtemps. Et donc, il y aura moins de gens qui pourront le tester. Et surtout, les gens qui testent ça, ils testeront moins de jeux. Donc, du coup, on voudrait que ce type de jeux-là ne soit pas pénalisé par rapport à des jeux rapides et familiaux.
Très bien. Ben, merci beaucoup, César, de nous avoir parlé donc, de Protovote, une nouvelle façon de tester, de discuter, de faire vivre les prototypes directement donc, sur le terrain au cœur du Off de Cannes. À bientôt.
Voilà, à bientôt. Protovote.org.
Matt et les filles jouent le jeu. C'est ludique, le combo gagnant de votre week-end.
Et le samedi en fin d'émission, vous le savez, maintenant vous en avez l'habitude, dans C'est ludique, on retrouve Morgane qui nous fait un petit point sur les jeux qu'elle a joués pendant ce week-end notamment. Bonjour Morgane.
Salut.
Enfin le week-end dernier parce que ce week-end c'est ça va être ce soir. Mais la semaine prochaine, je crois que tu nous fais une spéciale double 6, hein, c'est ça ?
C'est ça, voilà. C'est ça, ouais, parce que du coup, j'y vais tout à l'heure. Donc,
voilà.
C'est la journée là-bas.
Donc, ça va plutôt être sympa. Il y a beaucoup de monde au double 6.
Ouais, alors c'est un festival qui est hyper familial. Donc, c'est vraiment plus axé pour les familles, mais on a quand même des éditeurs et puis on a surtout les auteurs qui viennent présenter leurs protos. Donc,
c'est plutôt cool.
C'est très chouette. Ouais.
Allez, on commence tout de suite avec un jeu qui parle un petit peu de l'histoire de la France, les Enfants de la Résistance.
C'est ça, on commence avec les Enfants de la Résistance. Donc c'est un jeu de Gabriel Durnerin et Samuel Collin, qui est illustré par Vincent Dugommier et Benoît Hers. C'est sorti chez Le Lombard et Yellow il y a quelques jours. Le nom vous parle peut-être parce qu'il est basé sur la BD éponyme qui a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires. Et qu'en prime, il y a un film qui vient de sortir au cinéma avec Artus et Gérard Jugnot. Donc on est en plein dans l'actualité, en plein dedans.
Ouais.
Dans ce jeu, du coup, on est au cœur de la Seconde Guerre mondiale et en fait, on incarne des jeunes héros qui ne veulent pas rester passifs face à l'occupation allemande. On est sur un jeu coopératif où on va tenter d'organiser la résistance au cœur de notre village en réalisant plusieurs missions tout en évitant les patrouilles ennemies et la Gestapo. Chaque joueur va donc incarner un des six héros donc de la BD, hein, parmi François, Eusen, Félix, Adèle, Lisa et Simone, et il aura un pouvoir spécial associé. On va devoir réaliser plusieurs missions, il y a plusieurs scénarios à réaliser, et donc se déplacer sur la carte pour aller chercher ce qu'on a besoin de récupérer ou des actions à réaliser dessus. On va ainsi pouvoir récupérer des objets, distribuer des tracts, saboter des endroits. Bref, chaque mission sera différente. Et en fait, à chaque tour, chaque joueur va avoir 4 actions à jouer, ou 5 si on prend le personnage qui a l'action en plus.
D'accord.
Et qui permettront de se déplacer sur le plateau de lieu en lieu, de déplacer un ennemi, de récupérer un objet, etc. Et en fait, une fois que le joueur a terminé ses actions, c'est la patrouille qui va s'activer. Et pour ça, on va lancer un dé qui va indiquer de combien de cases va se déplacer chaque ennemi, donc entre 0 et 2 cases, dans l'ordre des numéros qui sont indiqués dessus. Donc chaque meeple en fait de l'occupation allemande a un petit numéro dessus, donc on activera d'abord le 1, ensuite le 2, etc. Et en fait, ils vont se déplacer sur un trajet qui est représenté par des flèches sur le plateau. Donc après, il sera assez facile d'anticiper ces déplacements pour éviter qu'ils se rapprochent trop de nous ou même éviter qu'ils se déplacent tout simplement. Il n'y a que la Gestapo en fait qui ne suit pas ces flèches pour se rapprocher toujours du personnage actif.
D'accord.
Et ses ennemis, faut s'en méfier parce que à chaque fois qu'on va en croiser un sur notre case, on va avoir une piste de tension. En fait, on a une petite échelle de tension qui va s'activer et qui va augmenter. Et à chaque tour qu'elle va réaliser, on va rajouter des ennemis et on va bouger les barrages en fait qui sont sur le plateau. Par contre, si on croise un de ses ennemis en portant sur nous un objet qui est de couleur rouge, c'est la défaite immédiate. Donc,
d'accord.
Il va vraiment falloir essayer de se déplacer discrètement pour pas qu'on se fasse choper. Pour gagner la partie, faudra donc réaliser les objectifs qui sont demandés par la mission en cours. Le jeu, il contient 6 scénarios avec des missions différentes et leur difficulté augmente petit à petit. Donc voilà, le but du jeu est très simple, hein, mais c'est vrai qu'après les Schtroumpfs et Astérix et Obélix, on retrouve à nouveau un jeu qui est issu d'une BD. Mmh. Comme à chaque fois, bah, j'ai toujours un peu peur du côté licence, voilà, qui nous plonge dans un jeu un peu trop basique, pas assez poussé, tout ça. Pour le coup, je connaissais pas la BD, donc c'est vrai que j'ai fait deux scénarios du jeu, mais je connaissais pas du tout l'univers. On a fait celui de départ, donc le basique de chez Basique, et un autre avec la Gestapo, et on se retrouve vraiment face à un truc bien coopératif, familial, qui est agréable à jouer. C'est dynamique, en fait, c'est, bah, ça reste accessible, hein, ça se joue vite. On ressent en fait la tension de la résistance qu'on essaie de mener, parce que bah, on essaie vraiment de se déplacer, d'éviter les ennemis. Les pouvoirs spécifiques des personnages, en plus, ils permettent d'avoir un petit côté asymétrique en plus. Chacun pourra faire quelque chose de différent. Donc, t'en as un qui se déplace d'une case en plus à chaque fois. T'en as un qui se protège des ennemis, donc lui, il peut traverser les cases ennemies sans problème. Et t'en as un autre, par exemple, qui a une action supplémentaire. Bref, voilà. En fait, on passe son temps à optimiser, à planifier. Ça fonctionne vraiment bien, et je pense que pour les enfants, et puis
mais ouais, ça leur permet d'apprendre l'histoire de la France aussi, hein.
C'est, ouais, c'est ça, c'est vraiment cool, et ils ont vraiment fait quelque chose qui, bah, qui relate bien l'univers, parce que bah, ouais, t'as vraiment l'impression de voir tes soldats allemands qui débarquent, et faut que tu t'en échappes le plus vite possible, donc très très bien fait, et c'était une agréable surprise, quoi.
Ah bah super. Alors donc là, ça c'est une nouveauté, maintenant on va parler d'un grand classique du jeu, Potion Explosion.
C'est ça, je crois qu'il fait partie des premiers jeux que j'ai eu dans ma ludothèque.
Moi aussi.
C'est ça, c'était une des bases, hein, je crois, à l'époque. Mais j'ai eu l'occasion, du coup, de le faire découvrir la semaine dernière à deux personnes qui ne le connaissaient pas. Et j'ai toujours autant plaisir à y jouer, donc c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc, Potion Explosion, c'est un jeu de Lorenzo Silva, Andrea Crespi et Stefano Castelli. C'est illustré par Giulia Gigini. Et c'est sorti d'abord chez Asmodée en 2015, avant d'être repris par Yellow en 2021. Dans ce jeu, du coup, on va tenter d'être le meilleur magicien de l'académie en réalisant des potions. Pour ça, au centre de la table, on a un distributeur avec plein de billes dedans, de couleurs jaune, rouge, bleu et noir. Et en fait, à notre tour, on va récupérer une bille d'une couleur et espérer qu'elle fasse une explosion au passage pour qu'on puisse récupérer plein d'autres billes. Donc, pour réaliser ces explosions, on va prendre juste notre bille. Et en fait, il faut que les autres billes derrière, ceux qui vont se toucher, réalisent une collision de même couleur pour exploser et donc qu'on puisse les récupérer également. Idem, si ça continue à s'entrechoquer entre mêmes couleurs ensuite, ben on récupère. Donc petit à petit, on peut en récupérer plusieurs et pas mal d'un coup. Une fois que nos billes elles sont récupérées, on va les placer sur les deux potions qu'on aura devant nous et qui ont des emplacements de couleurs spécifiques demandés. Donc chaque potion, elle va demander entre 4 et 7 billes différentes dessus. Et dès que tous les trous dessus seront comblés, la potion sera réalisée et va nous donner des points en fin de partie, mais aussi un pouvoir spécifique. Il y a plusieurs types de potions, je crois qu'on en, de mémoire on en utilise 5 pendant une partie. Et une fois réalisé, bah, ça nous permet d'activer son pouvoir une seule fois. Donc on peut récupérer plusieurs billes de même couleur adjacente, deux billes de couleurs différentes. On peut même aller voler dans la réserve de l'adversaire, retirer des billes du distributeur. Parce que oui, on a aussi une réserve qui nous permet de stocker 3 billes maximum qu'on n'aurait pas réussi à placer par exemple. Autre possibilité pour nettoyer un peu le distributeur et permettre des collisions, c'est de demander un coup de pouce au prof. Donc cette action, elle nous coûte 2 points de victoire, mais parfois elle peut être hyper bénéfique pour vraiment réaliser un enchaînement d'explosions sur le distributeur. Donc on va enchaîner les tours comme ça, hein, les explosions aussi, jusqu'à ce que la pile des pions compétences soit vide. Ces pions compétences, en fait, on va les récupérer quand on aura réalisé 5 potions de type différent ou 3 potions du même type. Et ces pions compétences, bah, ils valent 4 points en fin de partie, donc c'est pareil, c'est pas négligeable non plus, on essaye de les récupérer. La partie, elle peut aussi se terminer parce qu'il n'y a plus de potions disponibles. Alors ça, de mon côté, ça m'est jamais arrivé, mais ça reste une règle du jeu, qui est plus du tout de potions à récupérer. Mmh. On comptera ensuite nos points selon les points indiqués sur les potions réalisées, plus les pions compétences qu'on aura pu récupérer pendant la partie et auxquels on va retirer les points des coups de pouce du prof si on en a utilisé. Potion Explosion, pour moi, c'est toujours un jeu que j'apprécie toujours autant. Enfin, je ne sais pas, pourtant, il est simple. Hein.
C'est, ouais, voilà, c'est le fait d'avoir des billes, peut-être.
C'est ça, je pense que le matos il joue pas mal dedans. Mais, oui. Mais voilà, on a un côté quand même qui reste accessible, dynamique, on l'explique rapidement. On cherche à optimiser aussi chaque prise de bille pour réaliser la meilleure explosion possible et puis pas laisser des enchaînements trop faciles non plus aux autres joueurs, hein, clairement. Le matériel il rajoute clairement un côté hyper agréable. On a ce distributeur, alors moi le mien il est en plastique, je sais qu'il y en a en carton aussi qui existe.
Ah, j'ai un doute, je sais plus, hein, comment il est, tiens. Alors, je crois que c'est en carton.
Ouais, la toute première édition, c'était du carton, et après, ils ont mis
une version
dedans. Et du coup, ouais, on a aussi un côté course, parce que bah, on va chercher à réaliser nos potions au plus vite pour les enchaîner, récupérer des actions supplémentaires avec le pouvoir des potions. En fait, ça part de mécanismes hyper simples, mais je trouve ça hyper efficace, moi, perso. Et puis voilà, les potions à réaliser, ça donne toujours un résultat original, malin. Il y a deux extensions qui existent. On a le cinquième ingrédient qui rajoute des billes joker, des nouvelles potions, des profs, des réprimandes et même des récompenses. Okay. Et il y a le sixième apprenti qui existe aussi, donc qui permet de jouer à 5 ou 6 joueurs avec un deuxième distributeur du coup qu'on rajoute en plus. Et en fait, tu récupères dans un et tu recharges dans l'autre. Donc voilà, ça rajoute un petit truc en plus, quoi.
Deux jeux totalement différents, donc Les Enfants de la Résistance et Potion Explosion. Merci beaucoup, Morgane.
Avec plaisir.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Je te laisse vite partir pour aller au double 6.
Oui, c'est ça.
Merci, bon week-end, jeu. Salut.
Merci, salut.
Voilà, les amis, c'est ludique, c'est terminé. Nous, on se retrouve dès lundi pour Un jour, un jeu. Et bien sûr, samedi pour la grande émission. Jouez bien, bon week-end.